Salut les marques et salut les smarts et bienvenue dans cette grosse analyse de Hell in a Cell, c'est catch-up. Toutes les semaines, on résume, on analyse chaque semaine le dernier épisode de la WWE. Je mélange mes introductions, je n'ai pas mis à jour celle de
J'ai cru que j'étais à la maison, mais non.
Et non, nous ne sommes pas à la maison, nous avons même un squatter puisque... Aujourd'hui, pour analyser le pay-per-view de l'enfer, nous avons évidemment Giscal. Salut Giscal.
Salut Irem, salut tout le
et
monde.
Et le squatter, évidemment, c'est Ringside. Salut Ringside.
Bonjour Irem, bonjour Giscal, bonjour tout le monde, les auditeurs, les auditrices.
Bah écoute, ça c'est une belle façon, effectivement, d'introduire cet épisode. Alors, dans cette grosse analyse de Hell in a Cell qui avait lieu ce dimanche soir, le New Day emprisonne les Usos dans un pénitencier en kendo stick. Randy Orton gâche le Rusev Day, Daniel Bryan nous sert une triple frite, Charlotte a bobo genou, la Fashion Police sort un nouveau tube, Jinder Mahal et Shinsuke Nakamura nous livrent enfin le match qu'on attendait tous, je déconne, Bobby Roode et Dolph Ziggler nous offrent des glorieux roll-up et oui, Kevin Owens veut adopter les enfants de Shane McMahon. Qu'est-ce que vous dites de ça? Il est pas beau ce menu là?
Ah bah il donne envie hein.
Ah il donne envie, il donne très 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 envie.
4 étoiles.
Eh ben écoutez, je vous propose de commencer par un match qui a peut-être, qui mérite même peut-être plus que 4 étoiles. C'était notre opener qui donc voyait le New Day affronter les Usos pour un match pour le titre. Alors c'était un match dans la cage, mais c'était aussi un tornado tag team match hein, parce que tous les protagonistes pouvaient se mettre sur la gueule sans avoir à se taguer, et c'est Kofi Kingston qui est resté à l'extérieur. C'est lui qui avait la meilleure vue pour assister au match, mais il n'aura pas pu entrer une seule fois dans la cage, Kofi. Le New Day, donc, qui entre dans la cage, qui déclare que les Usos ont peut-être verrouillé la division tag team, hein, en faisant référence à leur promo de la semaine dernière, mais ce sont bien eux qui ont les clés, en tapotant la ceinture. La cage sera leur arme. Les Usos rejoignent donc Big E et Xavier Woods. La cloche sonne et les deux factions se ruent pour s'équiper. Eh ouais, directement, on va chercher les armes. Hein. C'est une grosse rivalité. On n'y est pas, on va directement chercher le matos. Alors, c'est chaises et kendo stick hein, pour les Samoans. Et puis, c'est un peu plus, on va dire, original, exotique pour les New Day, puisqu'ils nous sortent une bonne vieille chaîne, là, et un kendo stick arc-en-ciel, dont Xavier Wood s'équipe. Hein. C'était customisé, c'était joli. Évidemment avec une fonction pour faire mal. Alors, la chaîne justement qui s'abat rapidement sur un des jumeaux samoans, ça saute dans tous les sens hein, rapidement. Les Usos et Biggie plongent à plusieurs reprises à l'extérieur. Hein, le visage de Biggie fait connaissance un moment avec la cage. On a rapidement des chants This is awesome d'ailleurs, je crois à 2 minutes du match.
Oh, oui,
on a des chants This is awesome. Il y a, ça transpire la violence et la haine ce match. On assiste à, on voit plusieurs fois Francesca, et oui, donc le fameux trombone hein, de Xavier Woods. On a Francesca 1, puis 2. Alors après, ils ont sorti une espèce de cloche de vache pour les attaquer.
Ouais.
Une espèce de timbale. Tout le stock, hein, ils ont volé le stock de l'école de musique hein, qui passe sur les Samoans. Les Usos hein, sont plus classiques, ils tabassent leur adversaire avec les fameux kendo sticks. Bon ok, hein, ils en ont brisé une quinzaine hein, de kendo sticks, je crois que ça faisait longtemps qu'un match avec des kendo sticks, on y croyait vraiment, ça faisait très mal en les voyant se mettre sur la gueule. Beaucoup de générosité dans ce match, vraiment beaucoup de générosité.
C'est ça, c'est le maître mot. Ouais.
À un moment donné, on a un sacré spot où on voit un des frangins Uso qui est sur le bord du ring avec Big E qui est en face de lui. Il lui fonce dessus et Big E le contre et il le plaque à l'extérieur du ring. Et juste derrière, il y a Xavier Woods en fait, qui vient se glisser en dessous et qui place ses genoux. Et donc, ça fait une sorte de backbreaker après, qui était assez impressionnant. Je pense que le genou de Xavier Wood a dû bien morfler.
Un peu plus... peut-être dû utiliser l'autre, hein, effectivement.
Oui,
l'autre,
surtout qu'il avait l'air d'être l'autre blessé, quoi ? Ce genou-là.
L'autre genou ?
L'autre genou, oui.
Ah, j'ai tout. D'accord. Je croyais dire Kofi Kingston. il est moins important. On a un peu plus tard un des spots qui a fait le plus parler sur l'internet, puisque Jimmy ou Jay, hein, on s'en fout, je les aime bien, mais j'arrive jamais à savoir qui est qui, un moment, il se retrouve prisonnier dans le coin de la cage, entravé par des kendo sticks. Je vous parlais d'un pénitencier de kendo sticks. Donc, on voit Xavier Woods et Biggie, en fait, qui utilisent les kendo sticks pour bloquer dans le coin l'un des frangins Ouzo. C'était très, très drôle. Les provocations incessantes de Xavier Woods, hein, je vous l'ai dit, il y a beaucoup de haine dans ce match. Les New Day qui montrent vraiment un visage très agressif ce soir, même si ce sont bien eux les babyface. Mais un peu plus tard, la roue tourne, doit tourner, comme on dit dans le foot. Et c'est Xavier Woods qui se fera punir quand les Ouzo reprennent la main et menottent les deux comparses de New Day, Xavier Woods, est alors suspendu à un des coins des turnbuckles. Et alors là, c'est insoutenable, hein, puisqu'il se fait littéralement, 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 il ne faut pas dire comme ça, mais il se fait fouetter à mort, Xavier Woods. Là, je pense que là, il a dû bien morfler. Il a dû se prendre une trentaine de coups, hein, j'ai arrêté de compter. Biggie parvient à se détacher et se rebelle. Il distribue une large palette de souplesse, hein, dans la cage, sous les encouragements de Kofi, hein, qui est à l'extérieur et qui regarde un petit peu l'entreprise de destruction se dérouler sous ses yeux. Et Kofi qui gueule, mais qui me paye, fais-le payer, fais-le payer. Et c'était assez beaucoup de haine, hein. Il faut savoir dire non à la haine. Vous n'aurez pas ma haine, mais ce soir, je pense que Kofi l'a bien donné. Il place d'ailleurs, Biggie, pardon, place d'ailleurs un big ending. Pour simplement le compte de deux, là on s'approche de la fin, mais il se fait à nouveau éclater, hein, par les doubles super kicks, double splash, tout y passe. Mais c'est bien Woods qui se prendra le tombé final suite à un autre double splash, mais cette fois-ci avec la chaise. 1, 2, 3, victoire des jumeaux qui reprennent la ceinture dans ce qui s'apparente être probablement l'un des matchs de l'année. Tout du moins, on est en octobre et c'est probablement l'un des matchs de l'année, si ce n'est le match de l'année de la division tag team. Giscal, qu'as-tu pensé de tout ça?
C'était incroyable. Tu as très bien rendu justice à ce match. Il s'est passé plein de choses. Mais ouais, waouh, c'était probablement. On est en octobre, je pense qu'on est en droit maintenant de décerner des favoris pour la course au titre de match de l'année. Celui-ci en est clairement un. C'était vraiment extra. C'était extra pour plein de raisons, notamment c'est enfin, moi j'ai trouvé que c'était un des matchs Hell in a Cell les plus stylés que j'ai vu depuis sur ces dernières années. C'était aussi stylé parce que on le verra plus tard, mais ils ont fait quelque chose de complètement différent sur les deux Hell in a Cell, ce qui a très bien rendu, je trouve, sur le pay-per-view. Bon, bah là, voilà, c'était de la violence pure en équipe. Les New Day, j'ai trouvé, ont été excellents parce qu'ils arrivent à garder cette dimension à la fois. Enfin, on était au paroxysme de la tension entre les deux équipes. On était vraiment au top du top. C'était le chapitre final de cette histoire, mais ils arrivent à garder leur identité quand même et à la fois faire rire, mais en même temps en restant super sérieux. On sentait que ça déconnait pas dans le ring, mais ils arrivaient à nous faire sourire avec des petites idées, des innovations, des moves un peu fun et tout. Bon, les Ousos ont été encore au top niveau. Dans un des spots que t'as pas mentionné, mais moi qui m'a fait particulièrement frissonner, c'est quand un des Ousos tient Xavier Woods dans le coin et l'autre se propulse les fesses en avant là pour lui écraser la tête sur la grille. En plus, c'était filmé avec la caméra plaquée juste derrière Xavier Woods, et même en étant filmé d'aussi proche, on y croyait franchement. Enfin, t'as l'impression qu'il allait faire des frites à travers la grille là, c'était incroyable. Écoute, match de dingue. Et on arrive à un peu à un carrefour assez assez particulier, ce qui prouve en même temps à quel point cette feud était excellente. C'est que aujourd'hui, je suis partagé presque entre le fait de me dire j'aimerais bien que ce soit leur dernier match tellement c'était dingue, et en même temps c'est tellement stylé qu'ils nous font que finalement j'aimerais bien qu'ils continuent. Je sais plus ce que je veux, quoi. C'est tellement dingue ce qu'ils nous proposent. C'est vraiment ils volent le show là depuis 3 mois. Enfin, 3 mois, j'exagère peut-être, depuis 2 mois. Donc voilà, encore du très 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 haut niveau, et puis difficile de suivre après ça dans un pay-per-view quand t'ouvres comme ça. Alors t'entends plus Irem là, tu t'es muté.
Coupé la chic. J'ai été muté, voilà, j'étais muté dans le sud de la France. Non, mais je voulais simplement donner la parole à Ringside, donc...
Oui. Donc voilà, paraît de très important. Non. Ça a commencé très fort, hein, ce pay-per-view, avec ce match-là qui a été du coup pour un Hell in a Cell. On se plaint souvent que c'est un peu gratuit, la stipulation et tout ça. Bah là, pour le coup, ça a été bien construit sur plusieurs semaines avec toutes sortes de matchs déjà auparavant entre les Usos et les New Day où ils ont déjà été très très loin. Ils ont souvent sauvé SmackDown, sauvé les pay-per-view, toujours des grosses prestations. Et là, c'était le paroxysme. Donc, ils ont un match très riche. Ils ont été explosifs, violents, innovateurs. Il y avait tout ce qu'il fallait dans ce match, hein, quelque part. Effectivement, je pense qu'ils se classent pour un des matchs de l'année. Et on voit que quand on construit bien une feud, quand on sort un gros match avec stipulation, s'il est d'une selle, ça fonctionne d'autant mieux. Et donc c'est dans les sites total sur toute la ligne, et je pense qu'on se souviendra dans la carrière des New Day plutôt de cette rivalité là que de leur règne qui a duré je sais pas plus d'un an, etc.
436 jours, je sais plus quoi,
ouais, hein, voilà. Je pense qu'on se souviendra plutôt de cette rivalité là avec les Usos où la ceinture n'a cessé de changer de main, hein. C'est un peu la patate chaude, mais finalement c'est pas grave parce qu'on voit que les deux teams sont quasiment au même niveau et qu'il faut vraiment sortir l'artillerie lourde pour arriver à avoir un point final à leur rivalité. Mais excellent, excellent match, excellent opener. Il n'y a rien à redire, hein, je pense, sur ce match-là.
Bon, messieurs, je me joins à vous louanges, évidemment. C'était magnifique. Magnifique de violence, de haine et d'humour, malgré tout. Là, tu l'as bien dit, Giscale, effectivement. On a vraiment droit à toute une panel d'émotions avec ces équipes. Donc, c'est évidemment un match. Qui restera gravé dans les livres d'histoire. Un autre match qui ne sera peut-être pas gravé dans les livres d'histoire, peut-être, et encore moins celui de l'histoire bulgare, c'est Randy Orton versus Rusev, hein, dans la troisième manche, hein, la belle. Rusev, donc, qui évite agilement le premier RKO de Randy Orton, le RKO hein, qui est devenu une arme, enfin, qui a toujours été une arme fatale, mais Randy Orton veut dorénavant le placer très rapidement, ce qui fait encore plus écho à leurs deux matchs qui ont duré 10 secondes. Mais on a de la chance, ouf, cette fois-ci on aura à peu près un vrai match, puisque les deux hommes reviennent ensuite à des échanges assez standards, peut-être un peu trop standards pour Randy qui se voit contrer quasiment tout son arsenal hein, par Rusev, qui a bien regardé les cassettes là avant de venir. Il se fait projeter dans la barricade, la vipère. C'est parti ensuite pour 5 minutes d'ennui, hein, on va dire, un petit peu, pendant lesquelles Rusev maintient la vipère au sol, là, à base d'étranglement. Il place un spin kick, des clothesline. Le Bulgare rappelle qu'aujourd'hui, c'est Rusev Day. Alors, chaque semaine, il nous trouve une nouvelle catchphrase. C'est dommage parce qu'il capitalise pas du tout dessus. Après Rusev Number One, maintenant on a le Rusev Day. Je sais pas ce qu'il va prendre, ce qu'il va durer. Mais bon, il est toujours. Il est motivé, Rusev, ça fait plaisir. On aime bien le voir comme ça. Même si on aimerait le voir aussi gagner des rivalités. Randy Orton, lui, il n'est pas d'humeur à célébrer ce bel événement. Coup de poing, petit clapage de main. Ça me fait toujours marrer quand il fait son petit clap-clap là avant de placer son power slam. C'est genre juste spoiler alert, quoi. Genre, je vais te faire mon power slam, attention.
Rusev l'a contré une fois d'ailleurs, juste.
Exactement. Ouais, qui ne contre pas le power slam une fois? On se le demande. Randy Orton est de retour en selle. Un second RKO est évité. On en aura plusieurs des tentatives de RKO. Hein. Le Bulgare hurle, Mashka, mais la vipère lui glisse des mains au moment de l'accolade. Super kick, hein, punitif derrière. Rourou est tout excité, trop sans doute, hein, puisqu'il manque son headbutt. Un dernier contre sur le troisième RKO qui est armé. On approche de la fin. L'accolade est prête, mais la vipère s'échappe à nouveau. Et cette fois-ci, la dernière tentative est la bonne. RKO, létal, fatal, victoire de Randy Orton. Et Rusev qui repart tout tristonné sur la rampe, il était tout tristoun. Moi, j'étais triste pour lui. On sentait qu'il était déçu pour lui, probablement également déçu pour son pays et encore plus déçu pour Ringside.
À moi, grosse déception, mais effectivement, c'est rassurant d'avoir ce plan à la fin sur Rusev où on voit qu'il est pas content de lui, qu'il est déçu, qu'il savait qu'il pouvait gagner. Donc, je pense que ça va ouvrir quelque chose pour la suite. Je sais pas précisément quoi, mais je pense que voilà, ils vont rebondir sur quelque chose pour Rusev. Après, on est sur un match classique Randy Orton, hein, l'homme qui a remisé le titre WWE dans la mid-card. Rusev, le top babyface de SmackDown. Il y a Il n'y a pas grand-chose à redire sur le match. C'est pas mauvais, mais il y a rien d'exceptionnel non plus. C'est trop classique. Et puis, c'est un peu, effectivement, dommage de voir perdre Rousseff. Il est peut-être temps. Moi, j'attends toujours beaucoup de Rousseff parce que je l'aime beaucoup. Maintenant, le match était bon quand même. Le finish était particulièrement bien exécuté, là, avec ce Rousseff qui essaye de passer par-dessus les épaules d'Orton là, en la grippant pour placer la collade là, en une roulade et puis qui est contrée. Voilà, c'est un peu décevant quand on aime bien Rousseff, mais ça reste un bon match de pay-per-view. Voilà, Orton classique quoi.
Bon, et toi, Giscard, est-ce que tu célèbres le Rousseff Day?
Bah non, du coup, non. Je célèbre le RKO Out of Nowhere Day. Non, mais ouais, je suis un peu comme Ringside, peut-être un peu plus enjoué légèrement, mais bon, c'est un match qui a existé, qui était un match de mid-card de pay-per-view tout à fait correct. J'ai trouvé ça plutôt plaisant. Enfin, je me suis pas ennuyé devant. C'était peut-être plus du niveau d'un main event de SmackDown que vraiment une artillerie pay-per-view, qui méritait le pay-per-view, mais il y a eu des petits rappels sympas à leur match, tu l'as dit au début, les petits teasings de RKO. Je trouvais que justement, ils racontaient une histoire sympa avec Rousseff qui avait manifestement quand même bien bossé ses gammes, qui a beaucoup, beaucoup contré, qui a énormément contré le DDT de la deuxième corde, le Snap Slam, les RKO plusieurs fois pendant le match. C'était assez sympa, voilà, de voir les deux, après leurs deux victoires éclairs respectives, plutôt bien fonctionner ensemble. Moi, je trouvais qu'ils marchaient pas trop mal. Séquence de hit de Rousseff en milieu de match un peu mou du genou certes. Le finish était bon, j'ai bien kiffé le finish. Donc voilà, un match disputé un petit peu comme on l'avait annoncé lors de la preview nos pronos de SmackDown, je pense qu'on s'attendait à peu près à ça. Donc rien de bien fou, mais qui vient je pense mettre un point à cette rivalité de transition pour les deux. Et puis je partage un petit peu l'optimisme apparent, enfin en tout cas faut savoir raison garder, mais en tout cas l'optimisme pour Rousseff de ce petit plan, le fait qu'il ait un petit plan qu'on vend de ses émotions de déception après le match, je me dis que voilà, je suis pas inquiet de toute façon pour lui, il est talentueux, il continue depuis qu'il est revenu à avoir des bons matchs de pay-per-view, donc je suis pas inquiet pour Rousseff.
Non, bah écoutez, personne n'est inquiet, du coup je ne suis pas inquiet non plus.
T'es rassuré.
Rassuré, d'autant plus qu'on verra à la toute fin de cette analyse que c'est pas parce que ça fait un an qu'on n'a pas de programme pour toi que tout d'un coup on n'en a pas un pour toi et probablement un gros programme. Donc Rousseff, toujours dans nos cœurs, on ne désespère pas. Je vous ai parlé d'une triple frite dans mon menu. Pas anecdotique. Souvenez-vous, lors de notre analyse du supplément SmackDown, on avait dit, ils sont quand même cons ces bookers, ils nous mettent une rivalité à 3 pour nous faire un match à 2. On parlait évidemment du Baron, de AJ Styles et de Ty Dillinger.
Oh les cons.
Alors, évidemment, on aurait peut-être dû deviner ce qu'allait se passer. Ce qui s'est passé, c'est qu'au dernier moment, on en avait parlé, mais ça s'est réalisé au dernier moment. Daniel Bryan on a eu droit à une séquence backstage où Ty Dillinger est venu plaider sa cause en montrant sa victoire à Daniel Bryan, qui visiblement ne suit pas du tout son émission. Hein.
Non, c'est ça. En fait.
Tu regardes, mais j'ai gagné. Ah oui, ça aurait été à gagner.
Ah oui, dis donc, c'était sympa.
Du coup, Daniel Bryan accorde la triple frite dans un moment d'hystérie dont Daniel Bryan a le secret. Et puis voilà, dans la plus pure tradition SmackDown, on construit tout à l'envers. Parce que le temps que ça monte au cerveau des bookers, c'est déjà l'heure du pay-per-view. Du coup, évidemment, pour la petite info, c'est le seul pronostic sur lequel on s'est planté. Tu parlais des pronos tout à l'heure. Finalement, alors qu'on avait dit qu'on garantissait rien, on était plutôt pas mal. Donc, le petit résumé de cette triple frite. Ty et AJ, en sale voyou pleutre, encerclent le baron, qui est réfugié à la table des commentateurs pour le ratonner ensuite. C'est Ty Dillinger qui tente sa chance en premier via un roll-up puis un enchaînement assez rapide de coups face à AJ Styles. Mais le baron revient écraser les coucougnettes du Perfect Ten, du coup qui devient un Average 5. Il s'occupe ensuite de AJ Styles en 1 contre 1. Il est réglo le baron, lui. Le baron était très réglo, c'était du 1 contre 1. Il l'envoie voltiger sous les champs moqueurs du public. Il se demande où est la mallette du baron. C'est vrai, on se demande, avez-vous la mallette? si vous savez où est la mallette du baron, envoyez-nous un email. Mais le baron n'entend pas les critiques. Il est au-dessus de tout ça. Il préfère éclater AJ Styles dans le turnbuckle, dans les barricades. Et c'est le même tarif pour Ty Dillinger, qui tente de survivre avec des petits coups tout mignons. mais il se fait anéantir méthodiquement par le loup solitaire. AJ Styles tente d'entrer dans le ring en sautant par-dessus la troisième corde, mais évidemment, le baron l'a vu et le renvoie d'où il vient d'une énorme droite. On rappelle hein, qu'il est champion triple Golden Glove
voilà, champion.
Voilà, donc ouais,
je sais pas ce que c'est, mais bref, c'est costaud.
La boxe universitaire, sûrement, le Fight Club. Mais on n'a pas le droit d'en parler, évidemment. AJ Styles ne lâche rien, il mitraille le baron avec plein de coups rapides, hein, tel le moustique agaçant qu'il est. Les chants tout de suite s'élèvent à mesure que le champion pilonne son adversaire. Ça tu fais plaisir à ringside. Le baron préfère intelligemment battre en retraite. C'est le moment que choisit Tai pour revenir distribuer ses fameux 10 coups de poing dans le coin du ring. Tiebreaker contré, Clash Styles évité. Mais le Ten Perfect Ten, est pris dans le fameux Calf Clochard. On se souvient, hein, c'est la prise qu'il a battue plusieurs fois dans les weekly. Cette fois-ci, ça ne passera pas, car dans un élan de générosité et de don de soi, le baron aide Ty Dillinger en l'arrachant de la soumission. Ingrat, ce dernier tente le roll-up, mais se bouffe un énorme deep six. Menta arrive pour AJ Styles, hein, qui se bouffe un énorme choke breaker. Échange de cordes à linge dans les coins, ça c'était sympa. Baron est allongé par un sidekick. Ty Dillinger est allongé par un peu les kicks. Du coup, le Canadien s'écroule sur le corps du baron. Et l'arbitre commence à compter. C'est un tombé improbable, mais ça n'ira pas jusqu'à 3. Après, on a un 450 splash de AJ Styles sur le baron. Le tombé est cassé par Ty Dillinger, qui se fait allonger par le phénoménal forearm. Mais c'est le baron qui est aux aguets. Et à la faveur d'un bon double coup de botte, il éjecte le champion à l'extérieur pour lui ravir sa proie. 1, 2, 3, nouveau champion, le baron. Et le nouveau visage de l'Amérique, une nouvelle ère débute. Giscal.
ouais, c'est le match qui... C'est vrai que tu fais bien de le rappeler. On aurait fait le perfect s'il n'y avait pas eu ce match-là, finalement, avec nos pronos pas sûrs de nous. Là.
Même sans mais, vouloir, on est les meilleurs, toi.
Et ouais, tu vois, même sans le faire exprès. Ouais. Mais non, bah écoute, triple threat, bon, bah du coup, fort logiquement booké, et pas si mal. J'ai pas été très fan de la première moitié, on va dire, où c'était... c'est vrai qu'on a eu pas mal de... Rétrospectivement, maintenant, quand on sait qui a gagné, c'est vrai que je pense qu'ils ont voulu pas mal mettre en lumière un peu le Baron Corbin sur la première moitié, parce qu'on a eu une succession un peu de 1 contre 1, AJ Corbin, Ty Corbin, mais qui était un peu mou. J'ai pas trouvé que le Baron, justement, était très au niveau sur toutes ces séquences-là. Je trouvais la première partie du match un peu décevante. Mais il faut se dire qu'ils avaient quand même 20 minutes, et que donc c'est quand même pas mal. Et que la deuxième moitié de match, par contre, j'ai trouvé que c'était très sympa, beaucoup de rythme. Il y a eu notamment une séquence, tu l'as rappelé, entre Ty et Jay Styles, qui était superbe, hein, des très beaux contres entre les deux. Et quand ils passent du Styles Clash au Tiebreaker, au Raw Styles Clash, au Calf Crusher et tout, enfin, c'était très sympa. Dans l'ensemble, la deuxième moitié du match, je trouve très bien fonctionné, beaucoup d'interventions, beaucoup de petits contres innovants, les grands classiques du triple threat qui sont revenus avec les à toi à moi dans les coins, là, les coups de la corde à linge et tout, et qui s'enchaînent chacun leur tour. Donc, écoute, si je voulais être vraiment critique, je dirais que pour un triple threat de 20 minutes avec AJ Styles dedans, j'ai été un peu déçu parce que c'était quand même ils avaient quand même beaucoup beaucoup de temps pour s'exprimer. Ils s'en sont peut-être pas forcément servis au maximum, mais au final ils nous ont raconté quand même encore un truc plutôt cool, j'ai trouvé. Je continue à penser que l'alchimie des trois ensemble fonctionne pas trop mal. La victoire du baron est crasseuse à souhait, notamment quand il expulse AJ Styles, il l'expulse violemment, hein,
ouais, putain, deux coups de botte ça lui a pris, hein.
Le deuxième était assez sévère quand même.
Donc, c'est bien parce que tu dis merde, il a botché son coup de botte pour sortir, ouais, et du coup
bah, tiens,
là attends, il a fait preuve d'intelligence en vraiment en assénant un deuxième qu'il a de scotch, quoi.
Ouais, puis bon, bah voilà, Styles qui est toujours aussi fort quand il s'agit de bumper comme ça, rebondir partout, il est très très fort. Donc écoute, bah voilà, match plutôt plaisant, peut-être un poil long, et une victoire qui ouvre pas mal de choses. Le baron qui prend la ceinture, on va voir ce qu'il va pouvoir en faire après cette spirale un peu négative qu'il avait.
Ringside.
Ouais, le bon plan d'avoir ramené Ty Dillinger dans l'histoire, ça a donné du rythme au match, hein, plus de rapidité, c'était plus percutant, ça aurait peut-être été un petit peu plus ennuyeux si on avait juste un Styles Baron Corbin. Ouais, donc du coup, effectivement, ça fonctionne plutôt bien entre les uns, entre les autres. Là, Vraiment aussi toujours une belle performance de AJ Styles hein, dans le selling final. Hein, le finish était magnifique. Hein, moi j'ai trouvé ce double coup de latte dans la gueule là. Ty Dillinger, bah, qui voilà pour son match de pay-per-view, il fait le spectacle. Moi j'ai pas trop d'attente, tu vois, par rapport à bah, Dillinger comparé à Rusev par exemple. Mais voilà, il a fait le spectacle. Il est encore bien populaire, donc il y a moyen de faire quelque chose avec lui. Puis le Baron qui finit par remporter la ceinture. Voilà, on pensait qu'il était blacklisté, que c'était fini pour lui. Bah non,
ouais,
ça,
mais les, alors,
ça repart
attends,
de plus belle.
Les mecs blacklistés à la WWE, ils finissent tous avec une ceinture. Donc,
c'est ça.
Ouais, donc on va se calmer avec eux. Hein.
Exactement.
Moi j'aimerais bien être puni hein, comme ça. Hein.
Ouais. voilà, donc un bien beau triple threat. Voilà, maintenant on espère que AJ Styles va monter dans la carte. J'espère qu'il va pas trop rester encore dans cette espèce de trio là. Il faudrait peut-être un peu libérer le champ, voir un peu Ty Dillinger ce qu'il peut faire. Mais bon, en lui-même, le match de ce soir c'était du bon niveau. Et puis voilà, bah on est content de voir que ça tourne aussi bien pour le titre US toujours.
Alors, AJ Styles a réclamé dès le Fallout d'avoir son rematch dès mardi. Mmh. Donc,
ouais,
a priori, on devrait clore le chapitre concernant AJ Styles dès mardi soir.
En tout cas, on aura la réponse.
On aura la réponse, effectivement. Et dans ce cas-là, il pourra voler vers de plus hauts cieux. Tel qu'on l'espère tous, parce que c'est vrai que là, une fois de plus, il a fait preuve de son talent. C'est ça, vraiment, que ce soit pour le titre US ou même si au final son run de titre US aura été pas forcément un grand run, l'histoire qui a été construite avec cette rivalité en triplette était vraiment super bien foutue, en tout cas pour de la mid-card. Et voilà, et on a enfin eu ce triple threat. Et effectivement, l'alchimie entre les trois, ils ont pu la travailler. De toute façon, ça paye, hein, évidemment. T'as toujours une alchimie naturelle, mais là, quand les mecs, ça fait des semaines et des semaines que ils se croisent, on sent que vraiment là, ça fonctionnait vraiment bien dans le ring. Donc, effectivement, un bien beau match et effectivement une nouvelle ère qui s'ouvre. Un bien beau champion avec le Baron, qui, je suis sûr, prouvera à tout le monde qu'il a les épaules. Ou plutôt les hanches pour porter cette ceinture. Messieurs, on va changer de division si vous le voulez bien. Et puis si vous ne voulez pas, ben on change quand même.
Okay.
La division féminine nous attend. Ce soir, Charlotte défie Natalia pour la ceinture. Les deux catcheuses hein, de père en fille qui tentent rapidement de placer leur prise de soumission. Et Natalia entreprend un long travail de destruction de la rotule antérieure gauche de son adversaire. J'ai noté.
Le genou, je sais pas s'il y a une rotule antérieure. Mais
ouais. je sais pas. J'ai regardé les 15 saisons d'urgence, mais j'ai pas mon diplôme de médecin pour autant. Donc, Bon, bref, c'était un peu le fil rouge hein, de ce match. C'était même carrément le fil rouge de ce match Natalia qui détruit le genou de la reine. Big boot, lariat, entrecoupé de ces provocations qu'on aime tant de Natalia, où elle lève les bras et puis qu'elle fait un cri de sorcière là. Bon, alors une provocation permet à la Canadienne. Ouais, alors la Canadienne donc parvient à placer hein, son sharpshooter, mais Charlotte qui est visiblement déjà à l'agonie en bout de 3 minutes s'en échappe. La fille de Ric Flair boite. Alors les fleurs quand ils marchent ils boitent de toute façon hein, on les connaît hein, voilà, mais là elle boitait vraiment beaucoup. D'ailleurs à un moment elle a tenté de faire comme le petit pas de son père là, c'est assez marrant. Elle reprend le contrôle du match tant bien que mal, chaque coup hein, chaque prise la fait souffrir. Bête comme un cul, elle grimpe au turnbuckle et elle se fait power bomber. T'as le genou pété, tu grimpes au turnbuckle pour faire ton moonsault. Bon, hein, voilà.
C'est le flair des flairs, ça.
Le flair des
flairs. Pas s'en empêcher.
Sharpshooter again, mais Charlotte contre et envoie Natalia la nuque dans le poteau. Toujours aussi bête comme un cul, Charlotte remonte sur le même poteau, mais cette fois-ci, ça passe. Elle place son moonsault qui touche sa cible, mais à quel prix? À quel prix? Et pour une raison que je ne m'explique toujours pas, Natalia frappe son adversaire d'un coup de chaise. Victoire donc de Charlotte par disqualification. Et qui, je crois, se met à pleurer. Hein. Elle n'est pas contente. Elle est très triste de ce qui vient de se passer. Et Natalia repart donc avec sa ceinture. Ringside, qu'as-tu pensé de l'histoire qui nous a été racontée ce soir?
Ah, c'est du classique, mais très bon selling de Charlotte qui a vendu vraiment le genou comme il fallait.
Ah bah visiblement son genou devait être en miettes là.
Ouais, c'est ça. Moi j'aime bien le fait qu'elle monte sur la troisième corde là sur un pied. Non, elle a vraiment vendu jusqu'au bout le truc. Bon, après, Natalia qui sort les chaises, hein, c'est un peu le raccourci facile, histoire de se faire disqualifier, de conserver la ceinture. Voilà, elle sent qu'elle va pas réussir à battre Charlotte, donc elle prend la sortie de secours comme une bonne heel des familles. Voilà, bon, moi je suis plutôt satisfait du match, j'en attendais pas grand-chose. Je suis content de voir que Charlotte revient aux affaires, parce que il est temps quand même, hein. Je sais pas, ça fait au moins un an qu'elle stagne et qu'elle fait rien à SmackDown. Donc bon, c'est pas le match phénoménal qu'on pouvait espérer non plus, mais comme ça a été bien exécuté au niveau, moi je suis assez irréprochable sur ce qu'a fait Charlotte. Natalia, elle a son niveau qu'on connaît. Maintenant, c'est pas, ça mériterait d'être un peu plus flamboyant, peut-être un peu plus, un peu. Elle se repose sur sa technique et voilà, il faudrait qu'elle fasse un peu autre chose effectivement que cette tente un peu ridicule là. Bon, ça a fait le job ce match pour moi. Elles feront sûrement un plus gros match encore dans la revanche, hein, j'ai envie de dire.
Jusqu'à job done.
Ouais, job done. Ouais, c'est un peu ça. En fait, on n'entendait rien d'ailleurs de ce match grossièrement. On va pas se voiler la face. On n'en attendait pas grand-chose. Donc c'est vrai que devant ma télé, j'ai plutôt été agréablement surpris. C'est-à-dire que j'ai suivi le match de A à Z sans trop m'ennuyer. Donc c'était plutôt du bon boulot. C'est-à-dire que voilà, c'est propre dans le ring. Il y a rien qui dépasse. Elles savent forcément. Enfin, elles savent toutes les deux extrêmement bien catcher. Elles ont une histoire. Y avait une histoire dans le match avec tout ce selling qui a été en effet très bien fait par Charlotte. Donc oui, c'était bien. Après, on est peut-être en droit de s'attendre quand on a le pedigree qu'on avait dans le ring, Natalia, Charlotte, on pouvait quand même s'attendre à mieux
Ah,
quoi,
surtout
que
que le
ça, parce que
pedigree était carrément mis en avant dans les promos et...
En plus, on est censé être sur le très haut du panier en termes de filiation catchesque, la technique, la prestance, tout ça, le charisme. Bon, là, c'était du béaba, vraiment. Enfin, c'était elles ont récité leur gamme, mais sans sortir des clous, on va dire. Donc voilà, ça a fait le boulot. Ça a fait le boulot. On pourra se demander comment ils peuvent nous expliquer que Charlotte a résisté à deux sharpshooters en ayant
J'allais l'aborder.
le genou absolument explosé alors qu'elle avait tapé en 3 secondes chrono.
C'est
Mais
ça.
bon. On en a suffisamment parlé pour dire à quel point c'était une erreur monumentale de leur faire taper à SmackDown. Mais bon, ça, c'est. De toute façon, je sais plus quoi dire là-dessus, moi. Mais bon, voilà. Dans un. In a vacuum, là, comme ils disent. Là, enfin, dans un. Je sais pas comment dire, mais pris complètement à part, ce match-là était bien, était plaisant. Ramené dans le contexte de la division féminine et ce qui se passe, leur storyline et tout, j'ai trouvé ça pas terrible, terrible. Voilà.
Ouais, bah moi c'est vraiment le gros reproche que je ferais à ce match, c'est qu'effectivement, en soi, si tu regardes juste le match et que tu fais fi de tout ce qui a été raconté avant, tu fais bon, ok, d'accord, bon, un match comme un autre, c'est pas un match honteux. Mais il y a vraiment des gros points qui pour moi sont pénalisants. C'est effectivement cette histoire-là de sharpshooter. Enfin, il racontait effectivement l'histoire du genou blessé, alors qui a été raconté très rapidement et peut-être, à mon sens, j'ai trouvé un peu trop. C'était un peu trop dès le début, quoi. Et effectivement, on n'a aucune cohérence avec les weekly. Alors, c'est dommage de construire les choses de cette manière. Ça dédramatise un petit peu même je trouve l'effet attendu. Donc, bon. C'est un peu dommage. Je pense vraiment que ils ont une bonne formule là sur le match de ce pay-per-view là, mais c'est clairement du côté du weekly là qu'il va falloir bosser pour que justement quand on arrive à ce genre de match là, l'emphase, enfin il y a tellement d'enjeux et de haine entre les protagonistes que le match
C'est ça.
se
Mais
décuple quoi.
un point positif quand même, justement, c'est que on arrivait. Pourquoi est-ce qu'on n'était pas non plus trop intéressé dans ce match? C'est parce que la feud était pas terrible. Elle s'envoyait des pauvres piques entre la vieille folle au chat et puis Charlotte qui faisait qui parlait de son père et tout. Il y avait pas de réelle animosité. Il y avait pas de haine. Il y avait pas de tension. On avait du mal à croire vraiment qu'elles avaient envie de se foutre sur la gueule. Je trouve que dans ce sens-là, le finish du match, on aurait dû d'ailleurs, on aurait dû le voir venir parce que c'est vrai que c'est peut-être l'étincelle qui permet d'un point de vue de l'histoire de dire bon, ok, maintenant. Natalia, c'est vraiment une connasse. Elle lui a collé un coup de chaise en plus en traître et tout. Là, ça lance un peu le truc entre les deux. Donc ça, je trouve qu'à la limite, c'est plutôt pas mal joué, ça.
Bon, messieurs, on va passer aux choses quand même qui font un peu plus plaisir. Jinder Mahal versus Shinsuke Nakamura. Voilà, là, c'est le haut du panier. Là. Tu parles du panier, c'est même
Ah bah
au-dessus
là,
du
c'est
panier.
tu peux pas faire mieux là.
Tu
Hein.
peux
La
pas
barre.
faire mieux. Là, c'est vraiment, c'est un match. Pourquoi cette affiche n'était pas à WrestleMania, on se le demande encore.
Attends, c'est pas fini, hein. C'est WrestleMania.
C'est pas
Ça va
fini,
peut-être le
c'est pas
faire.
terminé. Donc,
Ouais.
au passage, hein, la seule rivalité qui invoquait vraiment la stipulation de Hell in a Cell se joue sans aucune particularité, parce que finalement, s'il y avait bien une raison de mettre ces deux-là en cage, elle existait, puisqu'il y a les fameux Singh Brothers, hein, qui sont toujours là
Oui.
à faire leur sale coup. Mais non, ce soir, on aura donc un match sans stipu. Alors, j'ai un résumé très court, parce que je vous avoue que bon, voilà. Si vous avez déjà vu les matchs de pay-per-view de Jinder Mahal, celui-ci n'aura. Voilà, c'est pareil, c'est pareil. Alors, les Singh Brothers, justement, on en parlait, ils sont tellement là qu'après leurs quelques habituelles interventions, ils finissent bannis du ring par l'arbitre. Alors, ça, c'est peut-être la petite
Ah
innovation, la
oui,
petite
quand même.
originalité, c'est qu'ils ont
Si, quand
fini
même.
banni du ring. Il a eu du mal à les bannir quand même. Il y a plusieurs fois où il était là, ouais, qu'est-ce que tu fais? Enfin, il est en train de le. À un moment, il y a un des Singh Brothers qui est clairement en train d'aider Jinder Mahal. Il le voit, il fait, oh, c'est pas bien de faire ça et tout. Bon, allez, voilà, recule d'un mètre, s'il te plaît. Enfin bref, ils finissent virés et Nakamura, malgré ses coups de pied qui claquent, hein, et toutes ses provocations là, ne parvient pas à capitaliser. Pire, hein, après une courte sortie dans les travées du stade. Il se fait à nouveau surprendre par le Kalas de Jinder Mahal. Je vous la fais vraiment courte. 1, hein. 2, 3, victoire de Jinder. La tournée en Inde est lancée. Voilà.
De toute façon, il faut le voir ce match, hein. C'est pas la peine
Non, il faut
de
le
se
voir.
limiter au
Non, non,
résumé
non. Souvent, pour les grands matchs,
incontournable.
je préfère faire un court résumé pour que les gens
Faut que les
aient
gens aient
envie
envie de le voir,
aient
quoi.
envie de le
Ouais, c'est
voir.
ça.
Voilà, donc voilà, c'est un grand match, c'est un court résumé, voilà. Giscal, pardon.
Ouais, bon, c'était pas terrible, terrible. C'était même pas très bon. C'était un
Déçu. Pire, c'était nul.
Ouais,
Même
pire,
dire que c'était
c'était
de la
nul. Non,
merde.
je dirais pas que c'était nul parce que
Ah, il
j'ai en
y a le
fait
CSA, tout ça, donc
t'as
je
des
m'en
menaces.
non mais je en fait je m'embête pas vraiment devant ces matchs-là, mais c'est vrai que c'est vu et revu. Enfin, genre, en fait, là, c'est l'accumulation pay-per-view après pay-per-view qui font que un match comme ça est agaçant. Parce que en soi, encore une fois, complètement sorti du contexte, je trouve que c'est un match un peu à la old school avec l'overbooking, les vilains là qui essaient d'intervenir, qui se font sortir par l'arbitre. Alors là, du coup, là c'était le teasing pour la foule parce que les vilains se font sortir par l'arbitre enfin après 2 mois et demi,
Exactement. Puis ça y est, on prend
après
la
deux mois et
sortie, là,
demi,
on va vers autre chose.
ouais, on se dit ah ça y est, est-ce
Mais non.
que non mais dans ce sens-là, c'est pas mal fait parce que du coup le public y croit à fond. Il se dit oh putain ça y est, on va y avoir le droit, ils sont plus là. Et puis en plus il y a le Kinshasa dans la foulée, c'est sûr, c'est fait. Donc ça c'était bien joué. Enfin je trouvais que c'était bien joué parce que j'ai eu mon petit doute à ce moment-là quand même et tout. Donc voilà, il y a tout ce côté dramaturgie un peu des matchs un peu à la old school avec le méchant champion, les valets et tout. Ça je trouve ça pas mal. Mais le problème c'est que ça fait trop de semaines qu'on voit la même chose de suite. Donc c'est un petit peu ça le souci. Donc je sais pas trop quoi dire pour la suite des événements parce que Nakamura a grillé ses cartouches là avec Jinder Mahal. Déjà avant le pay-per-view, j'avais pronostiqué Jinder parce qu'en fait plus par défaut parce que j'avais pas envie de voir Nakamura gagner son premier titre dans ce contexte-là. Et là maintenant on arrive à un stade où même si ça continue, enfin c'est même pire. Voilà, je voudrais qu'on passe à autre chose, qu'il change de programme, qu'il change de style parce que je pense que c'est la dynamique entre les deux est finie là, c'est terminé. On est passé à côté. Ils nous ont teasé le grand moment. Il n'a pas eu lieu. Je pense qu'il aura plus lieu maintenant. Donc écoute, voilà, faut passer à autre chose. Le match n'était pas très bon et il serait peut-être temps de changer un petit peu de dynamique, de voir ce qu'ils peuvent proposer d'autre avec Jinder parce que ça tourne un peu en rond. Ouais.
Bon, ringside. Alors, qu'est-ce qu'on fait là?
Ouais. Ah. L'accident industriel Shinsuke Nakamura contre l'homme qui privatise les house shows, Jinder Mahal.
Privatise les house shows.
Non, c'était nul du début à la fin. Jinder, je suis désolé, hein, vous avez un peu cassé beaucoup de sucre sur le dos de Nakamura, mais Jinder Mahal, il est vraiment mauvais en vérité. Hein. Il sait pas vendre. Il a pas vraiment de charisme. Il a pas vraiment de coups dans son arsenal. Ces matchs, c'est tout le temps les mêmes. Ces promos ne sont pas terribles non plus. C'est vraiment la plaie. Maintenant, il faut arrêter avec ce champion-là qui est en train de tout décrédibiliser, qui fait fuir les gens.
Au passage, il a battu du coup la durée de
le
championnat
de
AJ Styles. Ouais.
Ouais, bah oui.
Est-ce que AJ Styles sera le sauveur du coup?
Parce que c'est... N'importe qui, hein, mais il faut arrêter. Ouais, non, c'était pas bon du début à la fin. Moi, victoire de Nakamura, j'y ai cru, hein, parce que j'avais parié sur lui. Mais non,
parce que
il reste.
Pas nos pronos, ça.
Je ne sais pas, effectivement, je n'ai pas chopé vos pronos là sur cette semaine. Mais non, c'était triste. Nakamura, il peut pas sortir son catch. C'est toujours cette espèce de routine là qu'ils lui ont instauré. Et puis c'est pas Jinder qui va relever le truc, hein, parce qu'il est mauvais comme c'est pas possible. Donc, on a un mauvais match. C'est triste pour la ceinture. On a plus rien à avoir à foutre de cette ceinture. Ça va être très difficile de la remonter après. Non, tout ça c'est mauvais. Depuis le début, tout ça c'est une mauvaise idée. Donc il faut arrêter. Il faut passer à autre chose. Ce serait intéressant. On aurait pu avoir Nakamura qui reprend la ceinture et partir sur une rivalité avec AJ Styles, histoire de sortir des vrais bons matchs. Mais ce ne sera pas le cas. Et je crois bien que celui qui fera tomber Mahal, c'est Mojo Rawley, en fait, qu'on a vu dans le kick-off perdre.
Et je sens bien que c'est lui.
C'est osé, ça.
Voilà.
C'est la grosse
cote. WrestleMania, le match retour, Jinder Mahal, Mojo Rawley, après le...
Je ne sais pas si on est en train de réfléchir à prendre nos places pour cette année. Je ne sais pas si.
Ça va y aller, en fait.
Ça fait réfléchir.
Voilà. Donc, non, tout ça, c'était très mauvais. C'était vraiment le gros point noir du pay-per-view. Et c'est le gros point noir de SmackDown depuis un bon moment maintenant. Hein. Donc, voilà.
C'est vrai. Bon, effectivement, on n'a pas parlé du pré-show. Sachez que American Alpha V2 a battu les Eyebrows qui sont. Pas content.
V0.
Voilà, ouais. V0. Alors, je vais vous redonner le sourire, si vous voulez bien. Puisque ce soir, on nous avait annoncé le retour de la Fashion Police. Et vous savez quoi? Ce soir, on a eu le retour de la Fashion Police. Back to Basics, Breezango ont bouclé l'affaire 2B. Jusqu'à ce qu'ils reçoivent un étrange tube livré par des coursiers à l'allure familière. Du coup, il y a une petite étincelle dans le cerveau là des deux policiers. To be. Oh, à l'intérieur du tube, il ouvre une lithographie resplendissante de The Ascension, un poster réclamant. Il y a une écrit dessus. We want to be your friends. Une proposition balayée impoliment par les flics de la mode qui découvrent alors avec stupeur l'identité des coursiers qui étaient The Ascension. Vexés et déçus de cette inattendue réaction, ils repartent. On toque à la porte. Breezango ouvre, Taylor Breeze ouvre. Une mallette est posée juste devant la porte. Et à l'intérieur, quand on ouvre, une lumière d'or jaillit. Une nouvelle affaire commence. Ce n'est pas un briefcase, c'est un new case. Affaire à suivre. On nous tease donc le retour de la semaine prochaine de Pulp Fashion. Je ne sais pas ce que ça nous promet, mais voilà un petit moment de douceur, un petit chocobon pour nous.
C'est ça.
Voilà, vous avez su apprécier ce petit épisode. On est content de les revoir quand même.
Ouais, oui. Moi, j'étais inquiet là, qu'ils relancent l'histoire parce que c'était tellement, tellement bien fait la résolution que c'était. Ça aurait été dommage qu'ils cassent tout. Mais c'est vraiment.
Ça
fait plaisir
affaire.
De les. Heureusement. Ça fait plaisir de les revoir, non, c'est sûr, puisque apparemment ils sont pas là toutes les semaines au final. Hein. Beaucoup de mensonges à SmackDown.
Oui, non, une...
non beaucoup de mensonges à SmackDown.
Que des mensonges, ouais.
On est plus divertis par ces petits sketchs de une minute que par la rivalité pour le titre mondial à SmackDown. C'est dommage quand même.
Bon, allez, on va passer à la suite. Il reste deux matchs à analyser. On va commencer par. le moins intéressant, Bobby Roode versus Dolph Ziggler. Alors, une glorieuse entrée hein, pour Bobby ce soir, et une entrée sans fanfare pour Dolph Ziggler, puisque son theme song s'arrête aussitôt qu'il entre sous le titre en tronc. C'est donc ça, la fameuse entrée inédite
mais toute,
qu'il nous propose.
Mais toute sa fanfare était sous le ring et a été cassée par les New Day, là, donc c'est pour ça qu'il n'avait plus rien pour faire son entrée.
Bien vu, merci Giscal qui raccroche les wagons du pay-per-view, c'est formidable. Alors, une première moitié remplie de catch au sol hein, pour les amateurs. Bobby qui finit par sortir de l'emprise du blondinet à la faveur d'une belly to back suplex. Il place son blockbuster et un uranage dans un silence de plomb. Le public a un petit peu du mal à embarquer. Dolph Ziggler augmente la cadence. On tente quelques tombées. Il place son sleeper hold pour endormir Bobby Roode et le public qui lui dort déjà. Ouais, bah, on parle de slip. On verra à la fin. Tu nous teases la fin. Fame Esser dégueulasse pour le compte de deux. Dolph Ziggler arme le super kick, mais est contré en spinebuster. Glorious DDT contré. Bataille de roll-up en chaîne. Et c'est Bobby Roode qui tire le slip le plus fort et remporte donc le concours de roulade. Bravo, monsieur Bobby Roode.
Concours des galipettes.
Concours des galipettes remporté par monsieur Roode. Pas le temps de célébrer. Dolph Ziggler, en mauvais perdant, place un zigzag pour coucher Dolph Ziggler. Pour se coucher lui-même, pour coucher Bobby Roode. Donc victoire de Bobby pour son premier match en pay-per-view, un match fantastique hein, à bien des égards. Non. Hein, ringside.
Ouais, historique. Historique ces débuts de Bobby Roode. Intelligence du booking hein, de faire gagner comme ça le face sur un tirage de slip absolument impressionnant. Non, hein,
bien parce que ça. Il aime bien les tirages de slip.
C'est ce que je dis.
On en a vu des belles fesses, hein, des popotins ce soir. Hein.
C'est vrai. Bon, c'était pas non plus calamitique, mais c'est vrai qu'il y a eu quand même quelques botches calamiteux.
C'est calamiteux et mythique.
On va parler
c'est
en mieux. Français maintenant.
Calamitique.
Calamitique. Ouais. C'est vrai que ça veut rien dire ce mot-là. Tiens.
Non.
C'est un mot valise, c'est beau, c'est de la poésie.
Donc c'est un coup dans l'eau quoi hein, pour le début de coup d'épée dans l'eau pour le début de Bobby Roode. Moi de toute façon ça m'intéresse pas de le voir en babyface. Je comprends pas pourquoi ils ont pas continué sur la lancée du heel de imbattable de NXT.
Tu veux dire un babyface.
Un babyface pour le coup. Et puis voilà le public qui s'intéresse pas c'est l'effet Dolph Ziggler. Donc c'est toujours la même chose de toute façon hein, le mec qui arrive doit affronter Dolph Ziggler à un moment donné quand tu fais toujours la même formule ben ça
s'annonce mal du coup hein, pour Bobby hein, parce que c'est exactement le chemin qu'a fait Nakamura donc
Ouais.
Ah, peut-être Bobby Roode, futur adversaire de Jinder Mahal. Après, on ne sait pas. Attention, on va voir. C'était pas extraordinaire. C'est vrai qu'ils ont un peu loupé les débuts de Bobby Roode. Là, j'ai trouvé match mort. Bon, c'est dommage parce qu'ils avaient une carte à jouer. Initialement, on aurait pu se dire, bon, ils sont foutus. Les mecs, ils les ont mis dans le spot de la mort entre les deux main events. Et d'habitude, c'est le spot. C'est très compliqué de tirer son épingle du jeu. Mais là, non, parce que dans un des deux main events, ce soir, il y avait eu Jinder Mahal, Shinsuke juste avant. Donc justement, c'était très facile de prendre la suite de ce match-là parce que là, il suffisait juste de faire un peu de catch et il n'y avait pas de problème. et non, ils n'ont pas réussi à réenflammer la foule. C'est dommage. Donc match très mou. C'est pas des bons débuts pour Bobby Roode. Même si je maintiens, j'ai trouvé que le final du match était assez fun parce que je trouve que ça fit pas trop mal avec sa personnalité arrogante et un peu sûre de lui. Et puis en même temps, c'était une façon de faire rabattre le caquet à Dolph Ziggler qui l'avait nargué, je trouve, de le battre avec un petit roll-up de tricheur comme ça. Je trouve que quand c'est utilisé avec parcimonie pour un face, c'est assez drôle. Donc ça, j'ai trouvé que c'était pas trop mal. Mais ouais, sinon, à part ça, il n'y a pas grand chose à retenir.
Tu mets ça dans un weekly, quoi, pas dans un match de pay-per-view.
Ouais, t'avais même pas d'entrée spéciale pour Bobby Roode là, ils auraient pu sortir un truc un peu plus classieux comme ils faisaient à NXT.
Pas de podium, pas de truc qui bouge, pas de truc qui ouais tu sais. Bon, c'était des débuts très très mitigés pour le Glorious One.
Moi ce que j'ai aimé, c'est la réaction immédiate de Dolph Ziggler qui couche Bobby Roode directement parce que souvent les heels ils perdent comme ça, ils s'éclipsent ou alors ils font leur passage à tabac 5 minutes plus tard. Là, vraiment, dans la foulée, un coup de rage et il claque son zigzag. Donc, j'ai trouvé que c'était une bonne façon de de montrer le côté vraiment mauvais perdant et qui allait voilà, relancer
c'est
la
le
rivalité.
c'est le moment qui a eu le plus de réactions du match, c'était
Oui.
après le match.
Bah voilà, exactement, voilà. C'est exactement ça. Bon, messieurs, on arrive au steak, là, au gros steak du burger. Un match qui aura duré plus de 40 minutes. Alors, on pourra peut-être lui reprocher quelques longueurs, mais il faut dire qu'ils se sont mis dans des conditions assez extraordinaires, hein, nos deux opposants ce soir, puisque c'est bien Shane McMahon qui affronte Kevin Owens dans un Hell in a Cell, False Count Anywhere, Motherfucker match.
On fait ce qu'on veut, on s'en fout. Et donc, il y avait une porte. C'était ça, on est d'accord.
Donc, il y avait
on
une
est d'accord
porte.
Que dans les Hell in a Cell, d'habitude, il n'y a pas de porte, non?
Ah si.
Si, il y a toujours une porte.
Il y a toujours une porte.
Si,
okay,
mais
bah
elle
ça,
est
c'est
fermée,
parce que
les mecs.
Ah oui,
ouais,
non, parce
ouais,
que
ouais.
c'était ce que je me demandais quand on faisait les pronoms. Je me demandais, mais comment est-ce qu'il va faire pour sortir? Il va dire,
Si,
ils vont
si.
ajouter une porte, il va dire ouvrez la porte. Bon, c'est ce qu'il a
Si,
fait au
si.
final.
Si, si, parce
Bon,
que
bah.
tu as effectivement en fait tout le rituel au début où tu as la cage qui descend avec la
Ah
musique qui monte,
ouais,
tout,
je sais
tout, tout,
plus.
tout. Et après, ils arrivent, et regarde, souviens-toi, pour New Day Uso, ils arrivent, et c'est un peu le rituel aussi pour les catcheurs.
Oui, non, mais
Ils
pour
ouvrent
New
la
Day Uso,
porte et
ouais.
ils tapent sur la cage, ils font là, ça a l'air dangereux quand même cette
Ah ouais,
cage
mais
et
je sais
tout.
pas, j'avais en souvenir dans les Inocelles précédents, je sais pas, ils arrivaient d'abord dans le ring et qu'ils baissaient la cage ensuite, mais je sais plus, je
Mais
sais
c'est vrai
plus.
qu'elle n'est pas censée s'ouvrir au final. Elle est
Je
fermée,
sais.
elle est scellée. Il y a, je sais plus, Marc-Henri et Kane, dans leurs différentes apparitions, avaient déjà arraché les portes quand ils débarquaient
Ok.
pour aller claquer du babyface.
Bon,
La
écoute,
L, c'est vrai qu'elle n'est pas censée.
scellé.
Normalement, c'est censé être fermé, fermé, et puis tu n'en sors pas. Ça, c'est
Bon,
sûr, par
bah,
contre.
on verra, ils auront trouvé le moyen d'en sortir.
Ouais, on va laisser.
Femmes et enfants sont d'ailleurs venus assister à la tentative de suicide du paternel.
Suicide annuel.
Voilà, non, mais c'est toujours marrant hein, qu'on se souvient qu'il avait reproché à Kevin Owens d'avoir tabassé le grand-père, donc Vince McMahon, sous les yeux des petits enfants. En même temps, mec, tu ramènes tes gosses à chaque fois que tu tentes de te suicider. Voilà, ils doivent être traumatisés, mais si on verra plus tard, ils avaient l'air de bien le vivre. Pas le temps de niaiser. Shane attaque Kevin Owens alors que le Canadien s'apprêtait à entrer dans la cage. Donc on est à l'extérieur de la cage. KO est rué de coups, mais balance son adversaire dans la cage en métal et les barricades. Riposte de Shane avec une clothesline, head kick. Puis Kevin Owens se réfugie, entre guillemets, parce que c'est comme là qu'il vous fallait se battre dans la cage. Il tient la porte comme ça et Shane pénètre de force hein, pour mieux se faire éclater la tronche sous les yeux de ses gosses, justement. Que Kevin Owens ne manque pas de provoquer à plusieurs reprises. Il y aura plusieurs occasions de nous sortir quelques catchphrases assez délicieuses. Il y a un moment, il fait Do it for your kids, do it for your dad, qui était assez sympa pour Shane O'Mac. Et à un moment, il regarde les gosses, puis il leur dit, je devrais être votre rôle modèle, donc votre modèle. C'était assez marrant, alors qu'il est en train de tabasser leur père. Les gamins hein, qui rigolent hein, à la vue du papa qui a la gueule écrasée dans l'acier. Donc peut-être un petit peu mieux briefer les gosses avant de les faire venir au premier rang. Une petite séquence rigolote, un moment où le caméraman s'en mêle dans les câbles alors que Kevin Owens essaye de balancer Shane O'Mac. Et puis le caméraman manque de se casser la gueule et tu as Keo qui lui fait Ah c'est bon, j'espère que t'as bien filmé. C'était assez drôle. Swanton Bomb qui trouve les genoux de Shane, qui a dû se péter un ligament hein, au passage. Le shooting star press de Shane qui se voit trop beau et qui ne passe pas. Il parvient quand même à contrer le powerbomb en soumission du triangle infernal. Mais Kevin Owens s'échappe, hein, parce que ça devait être une espèce de triangle à quatre côtés, je pense. Il replace sa powerbomb qui passe hein, cette fois-ci sur les escaliers de fer à l'extérieur. Hein. On était beaucoup en fait justement à l'extérieur du ring, on était autour du ring plus qu'au milieu pendant tout ce moment-là. Kevin Owens, sympa. Sympa Kevin Owens. Il sort une table à la demande du public.
Ouais.
Il y place le corps inerte de Chanounet et il s'élance pour le cannonball hein, depuis le ring. Il est à l'extérieur du ring comme ça. Il a placé la table, il l'a posée hein, sur la cage comme ça, elle est en biais de biais. Mais au moment où il plonge, un hein, Shane s'écarte et le Canadien goûte à son propre sirop d'érable. Pire, Shane lui éclate. Ouais, je m'éclate moi que j'écris les résumés, sinon c'est chiant. Shane lui éclate le reste de la table sur le dos dans une violence insoutenable. C'était assez violent parce qu'il lui tapait avec le morceau de
Ouais,
table et
une demi-table.
il y avait encore les pieds en fer. Et franchement, je pense qu'il a dû bien morfler là, KO. Il se rappelle hein, qu'il a promis à sa femme qu'il sortirait les poubelles. Du coup, bah, il s'exécute et il va chercher sa fameuse poubelle. C'est marrant quand même. comment un mec peut réussir à soulever une foule en sortant une poubelle, quoi. Ça
m'éclate. C'est la magie du catch, ça.
Et donc, bah, il en profite hein, pour éclater la gueule du Canadien dans un coast-to-coast dont il a le secret. Ça m'éclate toujours parce que jusqu'aux trois quarts du saut, j'ai l'impression qu'il va pas toucher. Et en fait, et le mec déplie ses jambes et ça touche. Tu fais putain, la longe et du gars.
Go gadget aux jambes. Hein, ouais.
Et je l'imagine en train de se rendre compte à mi-chemin qu'il a pas sauté assez loin. Oh, et
merde.
Il force. Bref, on disait tout à l'heure qu'ils ont réussi à sortir de la cage. Alors au début, il veut sortir de la cage chez Nomak. On sait pas forcément pourquoi, mais il veut sortir. Et les arbitres font non, c'est pas parce qu'il y a une porte qu'on va l'ouvrir. Du coup, il va chercher une pince. Évidemment, il y a une pince. Et il s'échappe de la cage, hein, suivi de Kevin Owens. Et les deux hommes s'échangent des politesses. Shane se retrouve sur la table des commentateurs un petit peu plus tard. Et Kevin Owens entreprend alors. C'est là où le match bascule, de grimper tout en haut de la cage. Pris de vertige, il arrive en haut et là il est pris de vertige, il regarde comme ça au sol, et on dit, il va pas sauter. Il est en train de se demander, mais what the fuck, là je vais tout de même pas sauter, c'est quand même drôlement haut.
Il faut quand même être sacrément con pour sauter du haut de la cage.
il est en train de se dire, ah ouais quand même. Et là donc forcément ça laisse le temps à Shane O'Mac de reprendre ses esprits. Et si on peut dire ça, parce que je pense que ses esprits les a un peu perdus là durant ce match. Il rejoint le Canadien en haut de la cage et là un nouveau match commence où les deux hommes vont tenter à plusieurs reprises de tuer les spectateurs en provoquant un maximum de micro-arrêts cardiaques. Je ne compte plus le nombre de fois où j'ai poussé un cri à chaque fois qu'un mec s'apprêtait un peu à basculer ou... Donc voilà, on se demande en effet hein, qui des deux va passer à travers le plafond ou trébucher et chuter. On a droit à tout. Hein. Ils nous font la power bomb, ils nous font des kicks, ils nous font, je sais plus, ils ont
des surpassements, des souplesses.
Enfin, les mecs, ils chutent lourdement sur le plafond et à chaque fois, on se dit, c'est pas possible, ils vont passer à travers. Ils en peuvent plus. Hein, quand ils sont en haut, chez nos mecs, il est mort de chez mort. C'est ça qui rajoute tout le danger. En fait, tu te dis, putain, les mecs, ils savent plus forcément où ils sont, ils ont intérêt à avoir bien leur repère. Alors, une éternité plus tard, parce que c'est quand même assez long, hein. Du coup, Kevin Owens redescend, il est rattrapé par son adversaire, qui alors le fait chuter à travers la table, hein. Ils sont à peu près à mi-hauteur.
À mi-hauteur.
Il le fait chuter, alors Kevin Owens tombe super bien, parce qu'il se prend un coup, et vraiment, c'est d'habitude, on sent qu'il se laisse un petit peu tomber et tout, là vraiment, il est éjecté sur la table et il tombe lourdement à travers cette table des commentateurs qui est donc brisée. Et Shane ne s'arrête pas là, il place Kevin Owens sur la table qui est juste à côté, il remonte tout en haut de la cage. Je pense qu'au niveau cardio, il n'en pouvait plus. Et l'inévitable se prépare. Shane O'Mac plonge à nouveau du haut de la cage, coude en avant. Mais alors que l'impact est proche, une ombre sauve Kevin Owens d'une mort certaine. Cette ombre, c'est Sami Zayn. Encapuchonné, dans un état second, oh my god, le rouquin place le corps inerte de Kevin Owens sur le corps inerte de Shane McMahon. 1, 2, 3, victoire de Kevin Owens. Sami Zayn est intervenu pour sauver son ami ennemi de toujours. On renvoie Shane O'Mac sur les brancards. Qu'est-ce qui s'est passé dans la tête de Sami Zayn? Qu'est-ce qui a bien pu se passer dans la tête de Ringside?
Moi, j'étais retourné comme une crêpe. Un con qui a voté pour Shane O'Mac, je le voyais gagnant. Jamais misé sur Shane O'Mac.
Il est fou. En fait, mais t'as fait zéro en fait au paper.
Ouais, j'ai pas fait grand chose.
T'aurais vraiment dû regarder notre vidéo. Hein.
Ouais. Non, bah voilà, hein, pas de programme pendant 2 ans. Le mec se retourne contre le patron, c'est normal. Mais bon, c'est tout. Alors. Il y a eu un match quasiment qui s'est passé au-dessus de la cage.
Ouais, c'est ça.
Tout le début, là. Alors, effectivement, aussi des bumps de fou, là. Kevin Owens qui passe à travers la table et tout. Ils ont donné tout ce qu'ils avaient à donner. C'était là aussi la générosité, comme on a dit en début de show.
Plaisir d'offrir.
Plaisir d'offrir. Ils sont, voilà, ils sont pas ménagés.
C'est pour une occasion particulière.
Que de l'amour. C'est que de l'amour, tout ça. Et voilà, enfin le gros match référence de Kevin Owens, j'ai envie de dire. Shane O'Mac, bah putain, il est quand même impressionnant hein, pour son âge, faire tout ce qu'il a fait là. Il y avait même des trucs qui étaient assez incroyables quand il.
C'est ça qui est. J'ai beau dire du mal de lui, le mec est balèze quand même.
Ah,
Ouais, il est balèze, il est balèze. Ouais.
Et puis à un moment, il y a un saut de Kevin Owens en position de soumission. C'était aussi excellemment exécuté. Donc voilà, bah, ça a duré longtemps, mais moi, je n'ai pas vu le temps passer. C'était vraiment le grand spectacle qu'on attendait. J'ai même été surpris, c'était carrément au-dessus de mes attentes. Voilà, puis ce final, donc avec la trahison, enfin le heel turn de Sami Zayn, c'est quand même excellent. On est hypé pour la suite. Et je viens de comprendre qu'effectivement, si Shane McMahon réussit à descendre du coude, il tue son adversaire en fait.
Ah, je pense, ouais.
Il prend quand même
ils nous ont fait un magnifique, on a eu droit quand même à un magnifique ralenti là en 120 images ouais. secondes.
Ah,
franchement,
oui.
Quand Sami Zayn donc
le timing,
retire le timing, mais ça
c'était
se
risqué
joue,
hein, parce que ouais.
un tiers de
ouais.
seconde près, c'était vraiment
ouais.
incroyable. Hein.
C'était très risqué.
De la vitesse, c'est un truc de malade. Hein.
Ouais. Et puis c'est vraiment c'est beau comme spot parce que on est tellement captivé par Shane McMahon que du coup parce que j'ai lu pas mal de témoignages apparemment de gens qui étaient dans l'arène au premier rang et tout et en fait tout le monde est tellement captivé et c'est pour ça que c'est bien construit comme distraction, tout le monde est tellement captivé par Shane McMahon qui va se jeter que personne ne voit en fait depuis 5 minutes apparemment que Sami Zayn est là avec sa capuche qui se prépare et tout et donc c'est complètement inattendu, on s'en rend pas compte. D'ailleurs je pense que la majorité des téléspectateurs se sont rendus compte qu'il y allait avoir une intervention bien après que le crash de Shane McMahon, tellement t'es captivé par le choc et tout.
Bah,
donc
c'est le ralenti en fait qui révèle l'identité.
Oui, c'est
hein.
le ralenti qui révèle le truc. Donc c'était beau.
Grand spectacle. Grand
ouais.
spectacle, ouais, voilà. 5 étoiles, on va dire.
Ah bah,
oh, allez.
Écoute, non, mais moi je suis un peu du même avis que Ringside. Moi, c'est le genre de match où je serais capable de mettre 5 étoiles, mais c'est pas du 5 étoiles de catch pur. C'est pas du 5 étoiles puriste, c'est du 5 étoiles WWE, quoi. Il y a tout. Dans ce match, il y a tout ce que j'ai envie de voir dans un pay-per-view. Il y a une stipulation de dingue, il y a des spots de ouf, il y a du drame, il y a de l'intensité, il manquait presque que du sang, mais enfin, il y a le spectacle, il y a le grand, il y a les waouh, les ouf là. Quand ils sont sur le haut de la cage, tout le monde retient sa respiration. Tu sens que l'ambiance est surréaliste dans l'arène. En plus, avec les plans de caméra, avec le logo Hell in a Cell en fond, ça donne vraiment une ambiance, mais complètement tirée de, je sais pas, de l'au-delà, le truc. Tu sens le public qui retient sa respiration. Moi, je fais pareil sur mon canapé. Je pense que s'il était en cuir, j'aurais marqué le cuir tellement je serrais les fesses sur les spots. Non mais c'était terrible. Attends, c'était d'une violence, le truc. Ils ont quand même bien. Tu voyais que tous les spots étaient sur deux carrés, enfin vraiment deux carrés de la cage. Hein. Ils ont bien dû les renforcer, ceux-là. Mais bon, c'était super chaud. Non, le match était pour moi le match était parfait. Je me suis foutu de la gueule de la stipulation parce que je trouve ça crétin d'admettre de base que ta stipulation ne sert à rien. Mais si c'est pour en faire un truc comme ça qui est un spectacle total, enfin vraiment c'est le spectacle total, le package complet de A à Z pendant 40 minutes. Bon bah écoute, fuck, faites des Falls Count Anywhere, Hell in a Cell, Tornado, Tag Team Ladder, truc ce que vous voulez. Faites ce que vous voulez si vous nous faites du show comme ça. Voilà.
Alors, sur le chat, on nous pose la question. Alors, vas-y, continue jusqu'à là, on en débattra après. C'est une question intéressante, mais peut-être pas.
Non, oui, enfin, qu'est-ce que je voulais. Oui, sinon, bon, il y a toujours. Moi, il y a 2 ans, quand on avait analysé WrestleMania, il y a juste un truc. Bon, après. Ils prennent toutes les mesures de sécurité possibles. Donc, écoute, et puis c'est vrai que ça nous fait tous vibrer, mais. J'ai quand même du mal toujours avec ce spot parce que de la chute de 20, enfin, je sais pas, ça fait quoi? Ça fait 15 mètres la cage, un truc comme ça? Non, peut-être pas, j'exagère.
5 mètres.
Mètres.
5.
Non, moi, j'ai lu 200 mètres hein, de hauteur.
200
mètres.
Mètres
ouais.
Tu vois, j'exagère. Tu vois, parce que je sais pas, ils disent que ça fait 20 feet, mais alors je sais pas combien ça fait 20. Enfin,
bah,
bref.
Bah,
mais
mets
bon.
Ton pied 20 fois ton pied.
Ouais, je vais essayer.
Tu fais du combien?
je sais pas combien de feet je fais.
Elle est plus grande qu'à l'époque
ça
de Mick Foley.
De
oui, elle est plus grande qu'à l'époque de Mick Foley. Tu
ouais,
fais bien de le rappeler.
Ça avait l'air super haut. Bon, moi, j'ai toujours un peu du mal avec ça. Et puis, en plus, tes enfants qui sont là à côté. Vas-y, papa, suicide-toi, comme ça. Bon, c'est toujours une vision qui me dérange un peu. Mais bon, je.
Faut voir ce qui est écrit pour emmener large, hein, les gosses.
Oui, c'est vrai. Donc voilà, écoute, superbe, magnifique.
Alors la question qu'on nous posait, d'ailleurs juste, il y a eu un petit passage sympa aussi, c'est à un moment donné, il y a eu un petit coup de boule de Kevin Owens sur
Oui,
Shinomak,
c'est
et puis
vrai.
l'inverse aussi s'est produit, c'était un petit clin d'œil à évidemment la séquence avec Vince. On nous demande sur le chat si on considère que c'est vraiment un heel turn de Sami Zayn pour nous. Est-ce, parce qu'il avait l'air quand même
Écoute,
plus tourmenté que vraiment
oui, sa réaction est intéressante
animé
parce que
de
ouais,
méchanceté.
il a une expression qui est difficile à décrypter. Justement, c'est ça qui rend le segment encore plus. Parce que entre la bataille du haut de la cage et ce final avec Sami Zayn. Enfin, moi en tant que spectateur, et je pense que genre dans l'arène, on est un peu en apnée. Enfin, c'est genre, on sait pas du tout qu'est-ce qui se passe, on est complètement perdu. Et puis, du coup, cette expression de Sami Zayn complètement démente en rajoute un peu parce que on sait pas s'il a aidé Kevin Owens, on sait pas si, genre, peut-être qu'il voulait mettre, c'est quand même son ami, machin, il disait que ça prend des proportions. Est-ce qu'il voulait pas mettre fin au match un peu d'une certaine manière quand il aide Kevin Owens à mettre. Le bras sur Shane McMahon, il se dit bon allez, ça suffit, vous êtes complètement malade, il faut que ça s'arrête, il faut que ça s'arrête et tout. Donc est-ce qu'il met fin au match de cette manière-là ou est-ce que vraiment c'est un heel turn? C'est intéressant parce que le geste en soi, le geste peut être considéré comme noble un peu, il sauve quelqu'un et puis en même temps après derrière il essaye de mettre fin à ce carnage total quoi qui est en train de se passer. Donc c'est assez intéressant. Du coup SmackDown devient ultra intéressant ce soir là parce qu'on est mardi. Donc moi je suis pas sûr à 100% sur Hilton.
Je
Ouais,
pense qu'il va.
effectivement.
Attends, vas-y, vas-y. Tu vas? Bon.
Ouais, vas-y.
Je pense qu'il va, il va, il va
Pas
être
comme
per...
un ça.
il va, il va, il va être perturbé mentalement un peu.
Je pense qu'il aura pas bien dormi.
Ouais, Sami Zayn. Donc ça, je pense qu'ils vont jouer là-dessus, le fait qu'il soit un petit peu finalement pas très bien dans sa tête et que il va être un peu drivé par Kevin Owens au bout du compte,
Peut-être.
utilisé parce que aussi il s'est fait rembarrer deux trois fois par Shane O'Mac, hein, il me semble, hein, dans les
Oui,
émissions
un petit peu,
Sami
oui,
Zayn. Donc
le
voilà,
oui.
ils vont jouer là-dessus, je pense. Et, ça
Complètement.
va être pendant un temps, je pense, le sidekick de Kevin Owens, mais il sera un petit peu fada. Il aura peut-être des crises de violence, des trucs comme ça. Je vois bien quelque chose dans ce style-là.
Ouais, non,
Mais
mais un
c'est vrai que
super
les
acting. Et moi, je me suis dit aussi, le mec, il s'est rendu compte que en faisant ce qu'il avait fait aussi, il se dit peut-être qu'il a peur de ce qu'il vient de faire et de se dire, putain, en fait, je suis comme Kevin Owens, moi aussi, je suis en train de snapper. Enfin,
Ouais,
j'ai mis le
peut-être.
doigt dans cet engrenage-là. On est tous foutus, on va tous mourir.
Ils se rendent compte que ses patrons sont tarés, quoi. Les McMahon, c'est les pires psychopathes de la Terre. Donc, effectivement, tu
Aussi.
peux te
Non, mais
poser tes questions quand t'es
c'est
un
bien.
employé.
Ouais. Le fait que tu puisses le lire de plusieurs façons différentes rend la fin encore plus intéressante, je trouve. Donc c'est vraiment, ça rend pas mal. Et puis c'est vrai que rétrospectivement, ça donne un peu du sens aussi au segment un peu ferme. C'est vrai quand on y repense Shane McMahon avec Sami Zayn, qui n'hésitait pas à l'envoyer péter un peu. Donc c'est pas mal fichu tout ça. Ouais.
Bon, messieurs, c'est l'heure du mot de la fin, puisque nous sommes arrivés au bout du bout du bout du bout. Alors, votre top, votre flop et votre note, eh ben, je laisse la parole à Giscal.
Ah, alors, eh bien, mon top, il va aller quand même au premier Hell in a Cell de la soirée, que j'ai trouvé d'un point de vue catch, on va dire, vraiment. Enfin, c'est du match of the year contender, mais pour tout public, enfin, c'était du très très haut niveau. Et tout particulièrement, j'ai trouvé au finish du match, avec cette scène terrible là, où ils assènent les coups finaux là, de Kendo Stick sur l'abdomen là, de Xavier Woods, on avait vraiment mal derrière nos écrans pour lui. C'était un très beau finish de match avec le double splash et tout. Donc ce sera mon top. Et puis bah mon flop, par contre, ce sera sans trop de surprise pour Jinder Mahal cette fois. Tiens, tu vois, je vais pas parce que j'ai trouvé que pour une fois Nakamura était peut-être un peu plus motivé que d'habitude. Donc je vais le donner à Jinder Mahal. J'ai trouvé qu'il était il a c'est too much là. Ça commence à être un peu too much même pour moi. Donc
Ils
bon,
avaient dit
l'expérience.
qu'ils t'auraient à l'usure. Hein.
Ils vont finir par m'avoir à l'usure. Je continue à penser que c'est un bon champion heel, mais
Ah non, c'est il y a encore du boulot quand même.
il y a encore du
Voilà.
boulot.
Encore 6 mois et c'est bon.
Ouais, encore 6 mois et c'est bon. Mais voilà. Et puis bah ma note, écoute, c'est dommage. Ils nous ont un peu cassé le début de la deuxième heure de pay-per-view là avec l'enchaînement. Ça restait quand même un bon show. Je suis avec pas mal de matchs, j'en attendais pas grand-chose, donc je vais donner 3,5. Tu vois, je trouve que c'était plutôt un bon pay-per-view bien construit.
Ringside.
Ouais, le top, je vais le donner au trio Sami Zayn, Kevin Owens et Shane McMahon parce qu'ils ont, ils ont été excellents, tant au niveau de l'acting que de la performance. Tout ce que vous voulez, ils ont vraiment donné ce qu'il fallait. Le flop, je vais le donner à Jinder aussi, hein, je suis désolé, je peux donner à personne d'autre parce que c'est vraiment, ce sera mon flop. Vous pourrez donner mon flop toutes les semaines à SmackDown en me disant que c'est le flop de Ringside.
On le dira
Jinder
pas, mal. Mais ce sera sous-entendu, les gens voilà. le savent.
Voilà, et la note, je vais mettre. Ma note un 4, moi je vais mettre et je vais enlever un point à cause de Jinder.
Ah oui, merde.
Donc ça fait 4, hein, parce que normalement ça aurait été, on aurait été au-dessus.
Ah le con.
Tout le point est enlevé à cause de
Jinder. Ouais, donc Jinder, il fait chier là.
Ah ouais, là il fait chier. Écoutez, messieurs, moi, mon top, ce sera la victoire du Baron. Évidemment, on l'attendait tous. Je peux pas, voilà, ne pas décerner mon top au Baron. Et mon flop, on va faire la triplette. Allez, c'est parti, sur Jinder, comme ça. La triple frite, le triple flop pour Jinder Mahal. Et ma note, eh ben, écoute, c'est 4,25 pour moi. Générosité.
Je suis plus sévère, c'est rare.
C'est rare, oui, c'est incompréhensible. Mmh. Comme quoi, c'est un pay-per-view qui nous a complètement retourné, mis sans dessus dessous. Messieurs, merci à vous. Je rappelle à tous nos auditeurs et nos auditrices que vous pouvez vous abonner et nous suivre sur iTunes, PodCloud, mais également YouTube, Catch-up CDC pour le Twitter, Catch-up CDC pour le Facebook, lescahiersducatch.com et le forum pour lire des chroniques. Rendez-vous d'ici quelques jours hein, pour l'analyse de Raw. Le TLC, c'est déjà dans 2 semaines. Et ouais, ça va très très vite. Et également le supplément SmackDown pour analyser les retombées de ce pay-per-view. Les retombées, il n'y a pas seulement les retombées de Shane McMahon depuis les 200 mètres de la cage.
Je suis pas sûr qu'on le voit d'ailleurs. Hein.
Ouais. Pas sûr, à mon avis, on ne le verra pas. On est surtout curieux de voir qu'est-ce qui se passe dans la tête du rouquin. Sami Zayn, merci Giscal.
Merci Irem.
Merci Ringside.
Merci à toi, merci Giscal, merci les auditeurs, les auditrices.
Allez, une bonne semaine pleine de catch. Salut, salut.
Ciao, ciao.
Allez, ciao tout le monde.
Par contre, Giscard, est-ce que tu pourrais te décaler sur ta gauche, s'il te plaît? Ouais, non, l'autre gauche. Vas-y, encore. Vas-y, non. Attends, non. Alors, ouais, vas-y, encore, comme ça tourne. Ouais, encore.
Mais je suis plus du tout en face de mon écran, c'est une blague ou...